insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous.
Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec ton esprit.
Évangile selon saint Luc, Évangile selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Comme de grandes foules accompagnaient Jésus dans sa route, il se retourna et il leur dit: si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre personne, il ne peut être mon disciple. Qui ne porte pas sa croix et ne vient pas à ma suite, ne peut pas être mon disciple. Qui d'entre vous, en effet, s'il veut bâtir une tour, ne commence par réfléchir et calculer la dépense, pour voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout, de crainte que, s'il se trouve incapable d'achever, après avoir établi les fondations, il devienne la risée de ceux qui constateront la chose. En voilà un, dirait-il, qui s'est mis à bâtir et qui a été incapable d'achever. Ou bien quel est le roi qui, sur le point de partir en guerre pour se battre avec un autre roi, ne commencera pas par examiner s'il est capable, avec 10 000 hommes, de tenir tête à celui qui vient contre lui avec 20 000. Et s'il ne l'est pas, alors que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour faire des propositions de paix. Pareillement, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Certes, c'est une bonne chose que le sel. Mais si le sel lui-même vient à s'affadir, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il ne vaut plus rien, ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Dans l'évangile de Luc, le passage que nous venons d'entendre fait suite à l'évocation faite par Jésus du festin du royaume. Parabole dans laquelle, vous vous souvenez, une majorité de personnes invitées ont autre chose à faire que de répondre à l'invitation formulée par le roi, et où pour finir ce dernier envoie ses serviteurs chercher un grand nombre de pauvres, d'estropiés et de boiteux. Eh bien, ce sont justement de grandes foules qui, nous dit cet évangile, font route avec Jésus. Mais après s'être retournées, ces grandes foules, il les met fortement en garde. Nous tous qui sommes pauvres, estropiés et boiteux, d'une certaine façon, à chacun à notre niveau, eh bien, nous faisons partie de ces grandes foules. Le ton que Jésus emploie maintenant contraste très fortement avec celui de la parabole du festin. Ou bien il peut sans doute être comparé à la manière dont se termine la même parabole chez saint Matthieu au chapitre 22. Chez Matthieu, le roi qui vient d'entrer pour examiner les convives, on s'en souvient, remarque un homme qui ne porte pas la tenue de noces, et il le tense vertement avant de le condamner à errer dans les ténèbres. Matthieu fait d'ailleurs déclarer solennellement à Jésus, Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Chez saint Luc, le Seigneur montre avec force que vouloir le suivre ne suffit pas. Il faut aussi se soumettre à de très rudes exigences qui semblent, à première vue, dépasser les forces humaines d'un homme ou d'une femme ordinaire. « Pour être mon disciple, dit Jésus, il ne suffit pas de venir à moi. Il faut aller jusqu'à préférer sa compagnie à toute autre affection humaine. Nous l'avons entendu, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Ça, c'est la traduction du lectionnaire officiel dans l'évangile, le texte grec auquel cet évangile ici est plus fidèle. Il est brutal. Sans haïr son père, sa mère, son épouse, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie. Qui d'entre nous a entendu une première fois ou plusieurs fois ces paroles sans frémir ? Certes, dans la tradition juive, il y avait plusieurs cas d'hommes mariés qui quittaient, mais rares cas, mais quelques cas, qui quittaient tout, même leurs femmes, leurs enfants, pour se mettre comme disciples au service de tel ou tel rabbi. On se souvient par exemple du cas d'Élisée. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, nous pouvons voir le prophète Élie qui jette son manteau, ce qui signifie sur Élisée, ce qui signifie l'appel de Dieu. Et Élisée est en train de labourer son champ, et bon, il abandonne ses bœufs, il court derrière Élie qui vient de l'appeler, il lui dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis j'irai à ta suite. » La réaction du prophète Élie, il faut dire qu'il a un sacré caractère, est très brutale. « Va, retourne, qu'est-ce que je t'ai fait ?» Et on connaît la conclusion de l'épisode, Élisée le quitta, prit la paire de bœufs, Élie molla, il se servit du harnais des bœufs pour les faire cuire, et donna à ses gens qui mangèrent. Puis il se leva et suivit Élie comme son serviteur. Il n'est pas dit qu'Élisée était marié. Ça peut rassurer les gens qui sont mariés parmi nous, peut-être. En tout cas, l'originalité du précepte de Jésus par rapport à la tradition rabbinique, il est double. Première chose, il emploie un langage qui est sans doute encore plus radical. Il importe, dit-il, de rejeter absolument toute attache familiale, aussi légitime soit-elle. Il faut même ne plus se soucier de sa propre vie. Dans l'évangile de Matthieu, on trouve même à un autre endroit une injonction très provocante donnée à un disciple qui a demandé à Jésus « Seigneur, permets-moi de m'en aller d'abord enterrer mon père. » Le maître rétorque « Suis-moi, laisse les morts enterrer les morts. » La deuxième originalité du précepte de Jésus, c'est que la séparation d'avec les proches n'a pas pour but, comme dans la tradition juive, Jean-Claude nous l'a rappelé ce matin, étudier la Torah, se l'approprier, la loi. Mais il s'agit d'étudier avec un maître, puisque le rabbi, c'était celui au pied duquel on se mettait pour écouter comment vivre la loi, comment vivre avec la loi, se l'approprier. Non, cette fois, c'est beaucoup mieux. Ou c'est beaucoup plus. Il faut s'attacher à une personne, cette personne qui est la Torah vivante, qui est la loi vivante, et suivre cet homme dans sa route vers Jérusalem, car Jésus est en ce moment déjà en route vers sa passion. Seul peut être disciple celui qui est capable de prendre cette décision radicale et très difficile, c'est-à-dire de rejeter tout ce qui pourrait l'empêcher d'imiter Jésus jusque dans son sacrifice suprême. D'où la manière dont Jésus résume cette attitude. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Les exégètes font remarquer que c'est le seul endroit dans l'évangile de Luc, avant le récit de la Passion, où il est question de la croix, de la crucifixion. Puis après, il y a ces deux paraboles que nous avons entendues, qui suivent et qui illustrent clairement la démarche que le Seigneur demande à ses disciples pour pouvoir le suivre jusqu'à la fin. D'abord, il mentionne la construction d'une tour, et il utilise presque le langage d'un architecte. Comment faire pour mener à bien une construction ? Et attention, ce n'est pas anodin, c'est une tour. C'est-à-dire un édifice qui est le symbole même de la solidité et de la résistance à toutes les attaques extérieures. Comme on peut le voir aussi dans le passage de saint Matthieu au chapitre 7, dans l'exemple de l'homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc, et un texte semblable chez Luc lui-même, en 6:47-49, « Celui qui vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, dit alors Jésus, est comparable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profond et posé les fondations sur le roc. La crue survenant, le torrent s'est rué sur cette maison, mais il n'a pu l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Et il poursuit, « Mais celui, au contraire, qui a écouté et n'a pas mis en pratique, est comparable à un homme qui aurait bâti sa maison à même le sol, sans fondation, une horreur pour un architecte, même un maçon. Le torrent s'est rué sur elle, et aussitôt elle s'est écroulée, et le désastre survenu à cette maison a été grand. » Alors, il y a une deuxième parabole qui utilise cette fois le discours de la guerre. Pour Jésus, c'est bizarre qu'il parle de la guerre, mais c'était un thème qui était très familier à ses auditeurs, dans la mesure où, si nous lisons l'Ancien Testament, il est plein de ses calculs sur les forces respectives des deux armées ennemies, de deux armées ennemies auxquelles de nombreux rois, chefs d'Israël ou de Juda, les juges d'abord, puis les rois ensuite, se livrent tout au long de l'histoire du pays, à chaque fois qu'une menace se profile. Et le récit de ces deux paraboles s'achève par, d'une part, la réaffirmation de la radicalité nécessaire de l'appel Jésus à son disciple. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Et je me suis permis de rajouter le verset suivant que le lectionnaire n'a pas mentionné parce qu'il me semble être dans la même ligne. Il s'agit du sel, allusion au sel. Du sel qui vient à s'affadir, contenu dans les deux versets, donc 34-35. Sel qui vient à s'affadir, on peut comparer cela, n'est-ce pas, à l'Apocalypse de Jean, au chapitre 3, ainsi, « Puisque te voilà tiède, ni chaud, ni froid, je vais te vomir de ma bouche. » Et le conseil que donne aussitôt après l'ange ou le Christ lui-même, « Allons, un peu d'ardeur et repens-toi. » Alors comment nous pouvons nous mettre en œuvre de pareilles exigences du Seigneur? La première lecture de la lettre de saint Paul aux Romains montre ce qu'elles impliquent de relation avec le prochain. Voilà. Nous le savons, puisque Jésus, la Torah vivante, n'a pas aboli la loi. Eh bien, c'est l'amour. C'est-à-dire, n'a pas aboli la loi, mais l'a accompli. Mené à sa perfection. Et donc il est clair que le plein accomplissement de la loi, comme le dit saint Paul, c'est l'amour, c'est-à-dire s'oublier soi-même pour ne considérer que le bien de son prochain. Les chrétiens de la communauté de Rome, auxquels Paul s'adressait dans l'Épître aux Romains, ils savaient bien ce que ça voulait dire de renoncer à sa propre vie pour suivre le Christ, puisque, nous le savons, il risquait sans cesse d'être en butte aux persécutions. Il y en a beaucoup qui ont été persécutés, et même aux martyrs, il y en a beaucoup qui ont été martyrisés. Les quelques versets du psaume 111 qu'on a chanté redisent tout ça, ainsi que le texte même de l'acclamation de l'évangile de ce jour. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alors, pour nous rassurer, les gens mariés en particulier, on peut bien se dire qu'on n'est pas tous appelés à tout quitter, comme les prêtres et les consacrés. Mais il n'en reste pas moins qu'on est tous prêtres, par le sacerdoce baptismal. Que si on prend au sérieux ce sacerdoce baptismal, ça signifie qu'il s'agit de bien définir nos priorités dans le quotidien de nos vies. Peut-être que si on est ici aujourd'hui, c'est que nous avons vécu, à notre manière, à notre petit niveau, une fois dans notre vie, ou peut-être plusieurs fois, l'expérience qu'a vécue l'apôtre Pierre et qui est rapportée par saint Jean après la résurrection. Peut-être qu'on a entendu le Seigneur Jésus ou dire dans notre cœur, demander par trois fois, m'aimes-tu ? Et peut-être que nous lui avons répondu, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Peut-être que nous souhaitons aujourd'hui pouvoir dire, avec l'autre colonne de l'Église, l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Amen.
Amen. Amen.